Ne vous êtes-vous jamais demandé comment les oiseaux ont-ils fait pour s'envoler ? On a tous été fascinés par le vol tournoyant d'un rapace, que ce soit un milan, une buse, un aigle, et même devant le vol d'une troupe de corneilles ou d'un merle. Parce que ces bêtes, elles volent drôlement bien, et c'est une belle réussite technologique. Mais comment cette histoire a-t-elle commencé ? Un beau jour, un ancêtre oiseau ne s'est pas dit « Tiens, je volerai bien un petit coup ». La question, c'est aussi d'où les oiseaux se sont-ils envolés ? Et depuis la fin du 19e siècle, il y a deux hypothèses qui se font face. Soit on a un vieil ancêtre des oiseaux qui a plongé du haut vers le bas, donc il était sur un arbre, il a sauté, il a écarté ses pattes. C'est le scénario qu'on appelle le scénario arbre. Et puis sinon, autre hypothèse, on a un ancêtre des oiseaux qui se met à courir de plus en plus vite, il essaye d'attraper des petits insectes qui volent, donc il saute, et à force de sauter, il s'envole. Un petit peu naïf comme scénario, on appelle ça le scénario sol. Mais dans les deux cas, les paléontologues imaginent que les écailles de ces ancêtres des oiseaux, parce que c'était des bêtes qui avaient des écailles, ces écailles, ça grandissait, ça augmentait un petit peu la portance, et ça évitait de se casser trop vite la figure depuis l'arbre, ou au contraire, ça permettait de décoller depuis le sol. Donc essayons maintenant d'être un peu plus scientifique, et posons simplement la question de quoi a-t-on besoin pour voler ? Quels sont les prérequis au vol ? Parce que le vol, c'est une série de défis mécaniques et physiologiques qui sont importants. Donc d'abord, il faut avoir des ailes qui aient une portance suffisante pour porter l'animal. Pour un véritable vol, en tout cas chez les oiseaux, il faut une capacité à battre de ses ailes, donc ça veut dire des articulations et des musculatures adaptées. Ça veut dire aussi un métabolisme qui soit capable de fournir une quantité d'énergie absolument considérable qui est nécessaire au vol, ça on l'oublie souvent. Ce qui signifie qu'il ne faut pas être trop massif, il ne faut pas être trop lourd, il ne faut pas être trop gros. Et d'ailleurs, les très gros oiseaux comme les autruches, les émeus ou les nandous sont des oiseaux qui ne volent pas. Et puis on oublie toujours, mais il faut un cerveau et des yeux qui soient capables de gérer des déplacements compliqués dans un espace à trois dimensions, sinon on va rentrer dans les arbres, ça va pas marcher. Et puis, il manque aussi un ingrédient majeur, au moins pour les oiseaux, c'est la plume. Il y a des oiseaux qui ont des plumes et qui ne volent pas. On peut penser aux kiwis de Nouvelle-Zélande ou aux autruches dont on a déjà parlé. Mais pour voler, les oiseaux ont un besoin impératif de plumes. Il n'y a pas de vol sans plumes chez les oiseaux. Mais au fait, les oiseaux, ils ont commencé par quoi ? Ils ont commencé par s'emplumer ou ils ont commencé à voler ? La question, c'est pourquoi se mettre à voler si l'on n'a pas de plumes ? Et puis deuxième question, pourquoi avoir des plumes si ce n'est pas pour voler ? Alors c'est un peu l'œuf et la poule qui a commencé, et c'est une question un petit peu qui amène à se gratter un petit peu la tête. Et pour le moment, je vous ai raconté des tas de choses, mais vous êtes guère plus avancés par rapport aux questions posées. Et parfois en science, lorsque l'on ne résout pas un problème, c'est simplement que la question est mal posée. Alors on va essayer de la poser autrement. Si la plume, elle vole, au début de l'histoire, n'avaient rien eu à voir ensemble. En évolution, on sait qu'il y a très souvent du recyclage, de la superposition de fonctions, des organes qui sont des sortes de cumulards. Regardez votre main, vous avez un formidable pouce opposable. Chez nos lointains ancêtres primates, ça servait à s'accrocher aux branches, ça servait à ramasser des feuilles, à ramasser des fruits, à attraper des tas de choses. Ça peut toujours servir à cela. Mais on peut aussi s'en servir pour approuver, pour faire de l'autostop, pour se saluer, pour caresser la joue d'un enfant, etc. Les scientifiques appellent cela l'exaptation. On parle souvent d'adaptation, mais là, c'est l'exaptation. C'est un terme qui a été forgé pour dire qu'une structure anatomique pouvait, sans trop changer de forme, totalement changer de fonction. Et le plus bel exemple d'exaptation qu'on connaisse, c'est la plume, justement. La plume, c'est une sorte de couteau suisse, avec en fait pas mal de fonctions. Essayons de regarder d'abord les oiseaux actuels. Qu'est-ce qu'il y a chez les oiseaux actuels et à quoi servent leurs belles plumes ? La première fonction, c'est une fonction de protection contre des agressions extérieures. Et notamment la sous-couche de duvet est très protectrice. Ce revêtement, il a plusieurs avantages. Il est léger, il est solide, il est imperméable et surtout il est résilient en cas d'accident. Parce que le système d'accrochage entre les barbes et les barbules, il est souple, et en quelques coups de bec, l'oiseau répare finalement ses barbes et ses barbules, il arrive à les réaccrocher. En outre, la couleur même des plumes peut servir de camouflage, donc l'oiseau peut se camoufler dans un buisson, par terre, dans un champ, dans une prairie, grâce à la couleur de ses plumes, et échapper comme ça à ses prédateurs. Donc c'est une protection supplémentaire. La deuxième fonction de la plume, c'est l'isolation thermique. Le plumage enferme une couche d'air finalement entre la peau et la surface des plumes, plus exactement entre le duvet et les plumes qui sont au-dessus du duvet. Et comme les oiseaux sont des animaux qui ont leur propre chaleur interne, c'est très utile pour se protéger. Et nous-mêmes, on le sait bien, puisqu'on se fait des doudous en duvet ou des couettes en duvet, et on sait très très bien que ça tient bien chaud. La troisième fonction que l'on ignore souvent, c'est la communication. Les oiseaux se servent de la couleur de leurs plumes ou de la posture de leurs plumes pour communiquer entre congénères, notamment au moment des parades entre sexes différents. Et on connaît très bien le paon qui va écarter sa queue pour séduire sa belle. Mais il y a aussi le mouvement d'une huppe qui va se redresser, l'écartement des ailes, la couleur même de l'oiseau qui va être séduisante pour la femelle, par exemple, ou séduisante pour le mâle. Donc il y a un jeu de plumes, il y a un jeu de plumes pour la communication. Puis quatrième fonction, les plumes servent aussi, certaines plumes modifiées peuvent servir de récepteurs sensoriels. Il y a des petites plumeaux qui entourent le bec chez certains oiseaux, comme les barbus ou les kiwis de Nouvelle-Zélande, qui sont des équivalents fonctionnels des vibrisses du chat. Donc ça sert à capter ce qui se passe dans l'environnement. Et le cinquième usage de la plume, bien sûr, c'est le vol battu. Et la question est donc maintenant de savoir auquel de ces cinq usages la plume doit-elle son apparition. Car rien n'oblige à ce que la plume soit apparue avec le vol. Donc quelle fonction initiale aurait été sélectionnée? Alors pour répondre à cette question, on a besoin d'aller regarder chez les fossiles. En effet, si on regarde dans la nature actuelle les plus proches parents des oiseaux, on constate que les plus proches parents des oiseaux, ce sont les crocodiles. Et les crocodiles, ça vole très très mal, donc on ne va pas trouver la réponse chez les crocodiles. Par contre, si on va dans le registre fossile, là, il y a pas mal d'informations. On sait que les oiseaux plongent leurs racines chez un groupe de dinosaures qui s'appelle les théropodes, et notamment chez des théropodes de petite taille comme les maniraptors. Alors, les théropodes, ça regroupe tout un ensemble de dinosaures bipèdes, dont le plus célèbre est le T-Rex, donc un très gros dinosaure, mais il y avait aussi beaucoup d'autres théropodes qui étaient plus petits et plus paisibles. Alors ces dinosaures théropodes, dont les oiseaux descendent, étaient des animaux à sang chaud. Alors on le sait parce qu'on a analysé la microstructure de leurs os, et cette microstructure nous a donné un certain nombre d'informations, notamment que ces os servaient de réservoir à calcium, et que le réservoir à calcium dans les os est souvent utilisé chez des animaux qui ont un métabolisme intense, donc des animaux à sang chaud. Mais quand on est un animal à sang chaud, on produit sa propre chaleur interne, mais on a une difficulté, c'est qu'il faut savoir conserver cette chaleur interne. Et là, la plume, c'est peut-être intéressant, parce qu'au moins sous forme de duvet, ça permet de tenir chaud. Et on a un argument supplémentaire, c'est qu'on a trouvé des fossiles de dinosaures théropodes dans des régions qui, il y a une centaine de millions d'années, à l'époque où ils vivaient, étaient des régions froides. Donc c'est pas forcément stupide de penser qu'ils aient pu avoir un manteau et se doter de plumes pour se protéger du froid. Alors en plus, on a trouvé des emplumés qui ne sont pas des oiseaux et qui même s'écartent un petit peu des théropodes, et même beaucoup des théropodes. On a découvert depuis une trentaine d'années des dizaines de dinosaures théropodes non volants avec des plumes. Alors des plumes en forme de poils, de bouquets plus ou moins ramifiés, des plumes en forme de goupillons, de rubans, de raquettes, des plumes en duvet, des plumes en peigne, des plumes normales on pourrait dire, constituées de barbes et barbules, et on a même trouvé des plumes avec de la couleur. Et j'ai eu la chance de me rendre au musée de Pékin, et là on m'a ouvert des tiroirs où j'ai vu des fossiles de dinosaures avec des plumes, des traces de plumes, alors un peu aplaties, hein, il ne faut pas rêver, hein, ce n'est pas non plus un dinosaure en trois dimensions, mais il y avait des traces de plumes, et il y avait même des traces de couleurs sur ces plumes. Je me rappelle très très bien de plumes bleutées. Et donc ça amène à se dire, oui, on avait des dinosaures théropodes qui avaient des plumes et qui avaient des plumes colorées. Et puis en 2012, on a découvert en Chine un cousin du tyrannosaure qui faisait quand même 9 mètres, qui remonte à 125 millions d'années, et qui a gardé la trace de plumes en forme de poils filamenteuses qui faisait quand même 15 à 20 cm de long. Mais ce dinosaure avait des membres antérieurs tout petits, ce qui fait qu'évidemment, il ne volait pas. Donc ses plumes étaient bien un manteau. Et donc les plumes ont donc au moins servi de manteau et de signalétique sans doute, bien avant de servir à voler. Donc il faut imaginer des dinosaures à l'époque qui étaient des bêtes très agiles, qui étaient vifs qui était emplumé, qui pouvait parader, qui pouvait se reproduire, qui pouvait pondre des œufs. Et ça amène à une sixième fonction des plumes qui a été découverte chez les théropodes, même ceux qui ne volaient pas, c'est que finalement ces plumes, elles servaient aussi à protéger les œufs au moment de la couvaison. Tout cela signifie que la plume a servi à tout finalement avant de servir au vol. Elle a servi à bien d'autres choses. Et on découvre de plus en plus de dinosaures qui avaient de grandes plumes pennées, asymétriques, donc de belles plumes, mais qui pour autant ne pouvaient pas voler parce que leurs membres ne permettaient pas de voler. On en avait même aussi qui avaient des superbes plumes sur la queue pour des parades sans doute. Donc là, on est sur un très très bel exemple d'exaptation. Et puis on peut se poser une autre question qui est qui finalement a la plus vieille plume ? À quand remonte la plus vieille plume ? Alors on peut remonter sur la plume en forme de poil très très en amont. En 2009, on a trouvé dans le Jurassique moyen de Chine, donc là on remonte sur 160-170 millions d'années, un dinosaure dont le dos et la partie dorsale de la queue étaient couvertes de ces plumes en forme de poil. Il s'agit d'un dinosaure qui est très éloigné des théropodes. Il est très loin des ancêtres des oiseaux. Et cerise sur le gâteau, on a même trouvé chez les ptérosaures, vous savez, ces reptiles volants, dans du Jurassique supérieur d'Angleterre, on a trouvé des traces de plumes piliformes. Et on a trouvé ça chez des fossiles qui étaient connus depuis 1831. Mais en 1831, on n'avait jamais interprété ça comme étant des traces de plumes. Depuis, on l'a fait. Et donc, on se rend compte, et les ptérosaures sont des animaux qui sont très très loin des théropodes. On est à l'autre bout du spectre. Donc, très clairement, ces premières protoplumes en forme de poils ou de touffes filamenteuses remontent avant même l'origine des dinosaures chez un ancêtre commun des dinosaures et des ptérosaures, puisque les ptérosaures ne sont pas des dinosaures, ce qui fait reculer l'âge de la plume à plus de 230 millions d'années. Autrement dit, le vol, c'est franchement un genou par rapport à la plume. Pour finir, la plume, elle est très riche de fonctions diverses, dont une a été bien utile aux oiseaux, le vol. Mais nous l'avons aussi récupérée pour écrire. Au début, on avait besoin de plumes. Pour nous faire des oreillers, pour nous faire des couettes, pour nous faire des doudounes, pour nous emplumer de trucs en plumes, pour décorer nos chapeaux. Et en faisant tout ça, nous faisons des exaptations. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David. Réalisation, Charlotte Roux.